Oui, je me demandais justement par rapport au terme de bourgeois, s'il était revendiqué par les enquêtés eux-mêmes. Enfin, vous disiez que 50% souhaitaient le devenir. Et étant donné que, enfin, en tout cas, je me représente un peu les tos-artistes comme, comment dire, comme considérant la figure du bourgeois conformiste comme un repoussoir. Et du coup, comment est-ce qu'est-ce qu'ils font de cette dimension de promotion sociale? Est-ce qu'ils ont vraiment cette aspiration? Est-ce qu'ils l'assument? Et du coup, deuxième partie de la question qui va un peu avec, quand vous disiez qu'ils n'étaient pas, enfin, ils répugnaient à se rendre en banlieue et qu'ils en parlaient de façon assez assumée, enfin, ça a pu m'étonner parce qu'en même temps, avec la dimension artistique, il peut y avoir l'idée d'ouverture à l'altérité, etc., qui faisait que je me serais attendue à des discours un peu à plus de circonvolution, quoi, un peu moins.
Assumer.
Oui, voilà, par rapport à la banlieue ou par rapport aux immigrés ou au brassage culturel.
Oui.
Comment ils se positionnent par rapport à...
Je réponds tout de suite ou bien vous voulez
répondre peut-être au fur et à mesure.
Oui, c'est bien. Une des choses qui me gêne moi avec justement le terme de la bourgeoisie, c'est singulier en fait. C'est-à-dire les bourgeoisies, il y a des bourgeoisies. C'est pour ça aussi que moi j'avais gardé les classes moyennes ou les classes moyennes supérieures, même si c'est pas très satisfaisant non plus, mais donc mes enquêtés, comme sont autant que des sociologues, savent qu'il y a des bourgeoisies et ils disent clairement qu'effectivement ils ne souhaitent pas, ils n'aspirent pas à d'autres bourgeoisies dont ils viennent parfois ou qu'ils connaissent par ailleurs et qui correspondent à d'autres univers professionnels, de techniciens ou d'ingénieurs ou de commerciaux, etc., qui sont des univers qui les attirent absolument pas et qu'ils associent à d'autres espaces de la région parisienne qui les attirent absolument pas, la banlieue ouest, etc. Dans quelle mesure ces nécessités faites vertu, c'est forcément nécessité faites vertu en partie, néanmoins c'est un marqueur de classe important, enfin un marqueur en tout cas de positionnement social. En fait, dans les entretiens, ils se positionnent surtout par rapport à l'étiquette bobo qui est omniprésente dans la presse au moment où moi je fais mes entretiens. Et du coup, ça les amène à se positionner par rapport à beau et beau, donc à bourgeois et à bohème. Et effectivement, systématiquement, ils disent on n'est pas des bourgeois, on est davantage bohème, mais on n'est pas des bourgeois. Il y a deux choses qui me semblent intéressantes dans on n'est pas des bourgeois. Bon, il y a toujours la question du niveau de vie, hein, des revenus. Et là, effectivement, du point de vue des revenus, ils sont dans des revenus qui correspondent en moyenne aux revenus des professions intermédiaires et non pas des cadres supérieurs. Ils ont des revenus moyens, ils le savent très bien, notamment tous ceux qui proviennent de familles plus aisées. Et donc ils disent, voilà, on ne vit pas comme des bourgeois. Alors, ils vivent comme une partie de la bourgeoisie, mais enfin... c'est la question du rapport au travail aussi. Ils disent que... mais bon, là, ils exagèrent un peu aussi en disant qu'eux, ils savent ce que c'est que la valeur du travail, etc., que... notamment, voilà, le fait d'avoir fait les travaux par eux-mêmes, pour beaucoup d'entre eux, les autorise en quelque sorte à dire « on sait ce que c'est que travailler, on sait ce que c'est que faire des efforts, etc. »
C'était par rapport aussi à le rapport aux populations.
Alors, le rapport aux populaires, aux classes populaires, à la banlieue, etc. Là, il faudrait réintroduire une analyse un peu plus en termes de génération, en tout cas par rapport à ce que moi j'ai observé. Où j'ai dans mon... En fait, là, je vous ai surtout parlé de la génération, d'une génération née dans les années 60, début des années 70, qui est devenue étudiante dans les années 80, entrée dans la vie active au début des années 90. Et la génération précédente, qui est présente sur mes deux terrains, correspond plus à la génération de cette petite bourgeoisie nouvelle de Bourdieu ou des nouvelles classes moyennes, qui, elle, a été fortement politisée au moment de ses études. Qui du coup a un rapport au populaire qui est beaucoup plus pensé et beaucoup plus structuré par des adhésions des adhésions politiques en fait, hein, dans l'enregistre politique, et qui du coup plus volontairement va rechercher la cohabitation avec des populations différentes et va s'investir concrètement dans des formes de mobilisation visant le contact, les échanges entre les milieux sociaux localement. La génération née dans les années 60-70, pour ceux que j'ai vus, est beaucoup plus frileuse, beaucoup plus réservée, très méfiante à l'égard du politique, très méfiante à l'égard du militantisme politique, et assume... Et je pense que c'est aussi un produit de la vulgarisation des résultats de la sociologie. Elle assume assez bien la distance qui la sépare des classes populaires. Et donc, à la fois, ils ne veulent pas d'un environnement homogène bourgeois, et notamment d'environnements bourgeois dans lesquels, eux, ils seraient la fraction dominée de la bourgeoisie, hein, ça me paraît assez clair dans leurs propos. Mais ils ne veulent pas non plus... Enfin, la cohabitation avec les classes populaires se passe pas forcément super bien, et à titre individuel, ils n'hésitent pas à dire qu'ils n'ont à peu près rien à voir avec la nounou de leurs enfants, leurs voisins immédiats, etc., et à me raconter des anecdotes assez savoureuses dans lesquelles, ils assument la distance sociale, ils assument le fait qu'ils ne deviendront pas amis, et que c'est pas grave, et que c'est comme ça, et que la sociologie l'a bien montré, que de toute façon... Voilà, donc quelque part, la distance sociale est assumée, mais c'est pas pour autant qu'il y a une volonté de mise à distance. Ils sont également très contents que leurs enfants voient la diversité du monde social. Pour eux, c'est déjà ça, en fait. Nos enfants voient ce que c'est que la diversité du monde social. Il y en a plusieurs qui me donnent la même anecdote, c'est bizarre, hein, qui me disent « Mon fils ne dit pas un black, il dit un noir ». Ils me disent « J'aime le fait qu'il n'y ait pas de politiquement correct et qu'un noir, c'est un noir ». Et voilà, donc ils aiment que leurs enfants voient la diversité du monde social. Par contre, eux ne se font pas tellement d'illusions, mais n'ont même pas d'ambition. Juste une nuance, c'est pas seulement un effet de génération. Je pense que ma deuxième génération n'a pas exactement le même profil sociologique que la première. Et notamment, j'ai plus de professions artistiques et de techniciens de la culture, et un peu moins de professions intellectuelles et de gens passés par les études de sciences sociales et humaines. Donc il faudrait peut-être nuancer ce résultat-là.
Une question, Michel, tu as posé qu'on ne pouvait pas comprendre Gobelot, enfin, vraiment le type de travail intellectuel qu'il mène, si justement on ne le considère pas comme une pratique sociale exercée, alors tu dis professionnellement, mais pas forcément d'ailleurs, comme une pratique sociale, un travail, qui met en œuvre des techniques dans un contexte social, historique, déterminé, etc. Ce que je trouve tout à fait juste. J'ajouterais qu'on ne peut pas probablement la comprendre aussi si on ne regarde pas aussi ces réceptions, ces usages sociaux, qui sont aussi dans des contextes pas forcément les mêmes, qui sont aussi socialement et historiquement déterminés. Et là j'ai une question, enfin, tu l'as mentionné, mais moi, c'est vrai que tu ne donnes pas. Tu n'as pas répondu à la question. Bourdieu ne cite pas Gobelot. Et Bourdieu d'ailleurs ne cite pas non plus Veblen dans la distinction. Alors on pourrait s'attendre à ce qu'il cite au moins aussi bien Veblen que Gobelot. Et la question c'est pourquoi. Pourquoi il n'y a pas de réception explicite. Comment tu l'expliques?
Alors, c'est une question compliquée parce qu'elle renvoie à la fois l'usage social de la philosophie au moment où Gobelot écrit, ce qui est un premier aspect de la question. Et puis, il y a un deuxième aspect que tu évoques en tirant le fil Bourdieu et qui pose la question de savoir comment, à un moment donné, notre communauté de sociologues va filtrer ou pas des travaux.
On ne peut pas faire l'hypothèse qu'il n'a pas lu.
Allons-y sur Bourdieu. C'est très compliqué parce que... Alors, première chose, je ne devrais pas le dire, mais je m'en suis ouvert à Viviane Isambert-Jamati. Elle dit qu'il n'est pas sûr que Bourdieu l'ait lu. Mais bon, je ne la suivrai pas sur ce terrain-là. Je pense qu'effectivement, c'est Passeron, je crois, quelque part, ou Chamboredon, je ne sais plus, qui dit qu'à un moment donné, il est tombé dessus, que ça faisait référence complètement à ce qu'il faisait. Donc manifestement, je crois que dans leur petit cercle de normaliens qui, à l'époque, où ils travaillaient sur la question des héritiers, de la reproduction, etc., il était lu. Alors, pourquoi Bourdieu ne le cite pas? Très franchement, je ne m'aventurerai pas sur une question, sur un élément de réponse. Je n'en sais strictement rien. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a peut-être des stratégies de distinction. Enfin, on pourrait reboucler avec le même schéma qui consiste à... Ça, je ne sais pas. L'autre élément, ce serait de dire qu'au fond, peut-être, il y a quand même un décalage. C'est-à-dire que ça serait un peu rapide de dire que Gobelot, c'est juste du pré-Bourdieu, quoi, comme on le dit habituellement, et que ce qui intéresse Bourdieu, c'est quand même peut-être autre chose que ce qui intéresse Gobelot, en réalité. C'est-à-dire que, je parle sous contrôle, je ne suis pas un spécialiste de Bourdieu, mais je pense que le point important dans Bourdieu, c'est quand même la question de produire une sociologie des relations et des positions dans l'espace social. Et donc, on ne peut pas penser, du coup, de façon un peu j'ose pas dire substantielle, mais on ne peut pas regarder uniquement un groupe sans le penser en opposition, en interrelation, etc. Alors que Gobelot fait un choix qui consiste quand même à se centrer sur un groupe social et sur les stratégies qui se déploient en inter, etc. Donc du coup, je pense qu'il y a une vraie différence dans la façon de pratiquer. Bon, ça c'est un élément de réponse, ça vaut ce que ça vaut, mais là je pense qu'il faudrait être un fin connaisseur de la façon dont Bourdieu travaillait pour pouvoir y répondre. Je suis incapable de...
De la bibliographie sur la question de la distinction et sa connaissance dans les années 70, éventuellement. Parce que, comme je dis, quand un thésard qui commence sa thèse, ou quelqu'un n'importe qui commence un bouquin sur un sujet, et dit mon sujet c'est la distinction, il fait, enfin aujourd'hui, alors c'est des pratiques peut-être contemporaines, il faut regarder dans les années 70, il fait un état de la question.
Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Maintenant, je pense que Gobelot, alors c'est une façon de répondre sur le premier volet, je ne sais pas si c'était ça ton interrogation, mais Gobelot était très présent quand même dans l'espace social, comme d'autres philosophes. Il a été Dreyfusard extrêmement, et il a fondé plusieurs sections locales de la Ligue des droits de l'homme. Comme je disais tout à l'heure, il a écrit dans le volume, il écrivait lorsqu'il était prof en Normandie, il écrivait dans les journaux à l'époque. Et donc, c'était une figure de l'intellectuel, quoi, au sens où elle émerge au moment de Dreyfus. Ce qui est intéressant, parce que justement, ce que j'évoquais en introduction, c'est que les gens qui font l'histoire historienne de la philosophie montrent quand même que jusqu'au XVIIe siècle, les philosophes restent dans l'ombre de leur cabinet et y compris communiquent entre eux de façon codée. C'est-à-dire qu'on ne fait pas sortir les résultats du savoir philosophique en dehors de l'espace vraiment confiné. Et que c'est à partir du VIIIe siècle que les choses commencent à se développer. La philosophie devient un levier qui permet d'intervenir de façon autorisée dans l'espace public. Et Gobelot, d'une certaine manière, va le faire comme d'autres à ce moment-là. Donc il y a eu un usage social, et y compris dans la façon de produire des manuels de vulgarisation pour dire quelle est la bonne morale de comportement, etc. Gobelot a beaucoup écrit, notamment sur la pornographie à Lyon. Donc, dans la Barrière Niveau, à un moment donné, il évoque la question de la pornographie, mais en fait, il évoquait Lyon, parce qu'il était à Lyon et il voyait sous ses yeux la pornographie. Il était dans une ligne anti-pornographique, etc. Il a écrit même dans la Revue philosophique, ce qui est quand même assez intéressant, un article sur la pornographie, prenons la chasteté, ce qu'on ne faudrait peut-être pas forcément dans les revues de philosophie contemporaine, encore que. Donc, il y avait quand même ce souci que le discours qui est produit du point de vue philosophique ne soit pas un discours simplement entre pairs, même s'il y a un discours très savant, les articles sur la logique, c'est très chiant, et c'est très technique par ailleurs, mais il y avait cette idée que la philosophie a aussi pour mission d'être réappropriée par des usages sociaux. Et notamment, une des grandes causes de Gobelot, ça a été la musique tout au long de sa vie. Donc il s'est investi dans des associations pour promouvoir le savoir musical, etc. Et son Graal à la fin de sa vie, c'est qu'il a trouvé l'équivalent des corporations de métiers de Durkheim, en disant il faut retrouver un espace intermédiaire entre l'individu et la société. Et il a trouvé ça à la fin de sa vie, c'était le scoutisme. Et donc il était un responsable scout en disant voilà, ça recrée de la société à un niveau intermédiaire, etc. Donc il y avait vraiment ce souci, tu vois, de l'usage social de ce qu'il pouvait te dire, et pas simplement une philosophie en chambre.
Et après son décès, même avant, je veux dire, les Durkheimiens...
Ah oui, alors ça,
c'est... Gobelot, après son décès, enfin, je veux dire, c'est Baudelot qui m'a fait lire. Donc ça, cette édition-là, c'est 84, la phase de Valandier, et entre...
Oui, alors d'ailleurs, il se...
Il apparaît, qui le réinvente.
Je pense que Gobelot a eu le malheur d'être victime de sa situation d'entre-deux. C'est-à-dire, il n'a jamais été franchement durkheimien. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de regarder les relations entre Gobelot et Durkheim. C'est-à-dire que Gobelot, à la fois, s'empare de certains thèmes de Durkheim. On le voit très bien, y compris dans la Barrière Niveau. Quand il parle de la mode, il fait référence à Durkheim, au fait social. Mais dans d'autres écrits aussi, on voit très bien qu'il s'inspire directement. À un moment donné, d'ailleurs, Gobelot avait quelques velléités pour faire une thèse en histoire des religions. Il s'en est ouvert à Durkheim. Bon, finalement, il a changé d'avis, etc. Mais en même temps, de façon très personnelle, il n'a jamais été très très pote, pour le dire de façon triviale, excusez-moi, avec Durkheim. Alors que c'est exactement l'inverse avec Bergson. D'ailleurs, Gobelot est à 1000 lieues de Bergson. Bergson, vous voyez, c'est l'anti d'une certaine sociologie, hein, d'une certaine manière, hein, même si c'est plus compliqué, mais quand même, fondamentalement, ça reste ça. Bergson, je ne sais pas si vous savez, mais c'était Michel Onfray démultiplié par 100 000 dans les médias à l'époque. Hein, et en plus, c'était intelligent, donc ce qui fait quand même une sacrée différence. Comme je suis filmé, j'en profite, comme je ne passe jamais dans les médias. Et en même temps, donc, il était très proche amicalement, mais bon, ils ont réglé leur compte intellectuellement. Et donc, il était à mi-chemin entre une sociologie positiviste, mais il n'a jamais franchi le pas, et notamment, il n'a jamais écrit dans l'année sociologique. Donc, il n'a pas profité, si vous voulez, de la reconnaissance de l'école sociologique durkheimienne, alors même que dans un petit manuel, dans les années 20, vous savez, il y avait des manuels de sociologie qui étaient destinés aux futurs professeurs, aux futurs instituteurs. Et donc, il y avait des textes de sociologie qui étaient largement diffusés. Et dedans, j'ai oublié, mais un des plus célèbres, il y avait des textes de Gobelot où les Durkheimiens disaient « c'est vachement intéressant ce que fait Gobelot, il montre que la logique, c'est de la sociologie, etc. etc. » Donc, il était à la fois reconnu et pas reconnu, et donc il est vite retombé dans l'anonymat, au profit plutôt de ses travaux de logique, qui ont été notamment son traité de logique. Et effectivement, il y a eu plusieurs publications de ses travaux. Je crois qu'on en est à la 4e édition, et même les PUF, d'ailleurs, se plantent. Ils ont oublié eux-mêmes qu'il y avait une seconde édition du vivant de Gobelot. Et alors, c'est assez bizarre, parce que quand j'ai trouvé une trace, je crois que c'était chez Colin ou chez Alcan, je ne sais plus, que la première a été éditée, l'éditeur dit « ça ne marche absolument pas, il faut changer le titre, il faut appeler ça « Les bourgeois », etc. » Et lui dit « non, on va pas appeler ça la barrière niveau quand même ». Et donc, il refait une deuxième édition, et après, c'est l'oubli total, et Balandier, le ressort de l'affaire, je ne sais plus de quelle année ça date, 84, voilà. Et c'est à peu près à cette époque-là qu'on a quelques personnes qui sont un peu inspirées par toutes les théories, vous savez, de la linguistique, la sémantique, qui font une interprétation de Gobelot en termes de signes. Hein, donc c'est à la mode, quoi, c'est post-Barthes, quoi, grosso modo. Et puis c'est retombé un peu. Et c'est vrai que Bourdieu s'en empare pas, quoi. Mais bon, Bourdieu, c'est Bourdieu. Enfin, je ne pense pas que c'est lui faire injure que de dire qu'en général, il n'exhibe pas toutes ses sources. Hein. Je crois qu'on peut le voir simplement en lisant ses bibliographies. Donc voilà, c'est comme ça. Hein. Moi, je pense qu'il l'a lu. Mais simplement, comme c'est quelqu'un de très malin, il s'est construit son propre système avec 1000 références. Hein. Donc voilà, et Gobelot en est une parmi d'autres.
On a le temps de vous chercher. Moi, j'en avais une rapidement quand même pour Anaïs Collège. En fait, il y a quand même pas mal de jeunes sociologues dans la salle, de futurs sociologues. Et donc, je voulais vous demander si vous pouviez parler un peu plus de votre méthodologie et des problèmes que vous avez pu rencontrer. Et méthodologiquement, comment est-ce que ça peut poser problème d'étudier la bourgeoisie, les bourgeoisies, assez rapidement, parce qu'il ne reste pas énormément de temps. Mais je pense que c'est une question qui peut intéresser pas mal.
Je vais vous décevoir parce que j'ai... je dirais pas que c'était facile, mais j'ai eu de la chance. J'ai pas eu de la chance, c'était assez facile parce que je suis tombée dans ce moment justement où les enquêtés, les gens que je suis allée voir, avaient besoin de faire reconnaître la valeur de ce qu'ils avaient fait. Enfin, je suis désolée, hein, je répète un petit peu, mais c'était vraiment visible qu'ils étaient contents de me parler, qu'ils étaient contents de me montrer les travaux qu'ils avaient effectués et qu'ils avaient besoin de réagir aux accusations sous-jacentes aux articles sur les bobos dans la presse, qu'ils avaient besoin de se positionner par rapport à ce qu'on disait d'eux sur le côté utilitariste sur leur supposée duplicité à l'égard justement de la mixité sociale, etc. Donc finalement, en fait, ils étaient assez contents de la situation, de pouvoir parler. Et par ailleurs, c'est des professionnels qui sont chez eux, souvent, pendant la journée. Donc très concrètement, ils sont beaucoup plus faciles à attraper que d'autres. J'allais pas sonner aux portes, mais j'ai commencé dans les cafés, à la sortie des écoles. Ils sont là, en fait. Donc, ils vont travailler à d'autres horaires, tard le soir, pendant le week-end, etc. Mais voilà. Et il y a une porosité assez forte entre l'espace de travail et l'espace domestique. Donc ils peuvent aussi faire une pause dans le travail, le temps de faire un entretien. J'ai remarqué parce que vraiment, il y en a avec qui j'avais pas du tout eu le temps de finir l'entretien parce que j'avais un autre rendez-vous d'entretien derrière ou j'avais plus de pile ou ceci ou cela.
et qui me disait, on n'a pas fini, on se donne rendez-vous quand? Et qui me donnait rendez-vous 2 jours ou 3 jours plus tard pour finir. Ouais. Et voilà, donc ils m'ont fait, voilà, des entretiens très riches et très longs, et eux-mêmes cherchaient les photos, ils avaient besoin de raconter. Par contre, quelque chose que j'ai pas résolu, c'est est-ce qu'il faut faire l'entretien avec le couple ou avec l'une des deux personnes du ménage ou avec les deux séparément? En fait, sur la recherche immobilière, c'était vertigineux de voir que quand ils étaient à deux, en fait, ils donnaient des réponses totalement différentes et que c'était la discussion qui était intéressante. L'un qui se souvenait avoir visité 5 logements et l'autre qui me disait « Mais rappelle-toi, on en a vu au moins 30 !» Et donc, en fait, après coup, on filtre, on évacue tout ce qui était vraiment d'aucun intérêt. Enfin. Et donc, en fait, tout ça a révélé aussi des manières très différentes d'appréhender la recherche immobilière. Et je pense que c'est un moment, cette recherche du logement, qui met en jeu quand même des choses assez fortes chez les individus, sur les aspirations, sur les manières de vivre, sur le positionnement social, sur les trajectoires, sur ce qu'on a intériorisé au cours de l'enfance, sur ce qu'on veut pour ses enfants. Il y a des enjeux très forts, en fait, et des ajustements à faire au sein du couple qui sont pas évidents. Donc, voilà, là-dessus. Là, on fait une enquête actuellement sur le choix du mode de garde par les conjoints et la socialisation au rôle de parents. Et là, pour le coup, on a décidé de faire des entretiens séparés avec l'homme puis la femme. Mais ce serait certainement aussi intéressant de les avoir ensemble, de confronter leur point de vue. Enfin, voilà, plutôt des questions de méthode. Le moment où j'ai patiné dans mon enquête, ça se sent dans mes exposés, c'est finalement sur le terrain croix-roussien, qui avait été pas mal travaillé par d'autres sociologues avant moi, à commencer par mon directeur de thèse, Jean-Yves Gauthier. Et donc, où en fait, j'ai eu la sensation assez vite d'avoir fait le tour de mes questions à moi. Il y avait certainement plein d'autres questions sociologiques à poser à ce terrain très intéressantes, mais mes questions à moi, j'avais l'impression assez vite de ce qu'on enseigne dans les manuels, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a l'impression que c'est saturé, que les entretiens, un entretien de plus n'apporte pas grand-chose. C'est certainement en partie faux, mais par rapport aux questions que j'avais moi sur la transformation de l'espace, ça s'explique par le fait que c'était achevé, c'est-à-dire que quelque part, le reclassement de la Croix-Rousse, c'était fait, il n'y avait plus d'enjeux, et donc j'avais à avoir une classe constituée, les Croix-Roussiens qu'on connaît aujourd'hui, avec leur mode de vie, etc., qui a une cohérence, un intérêt, mais j'avais pas le travail à l'œuvre, beaucoup moins qu'à Montreuil en tout cas. Donc ça peut être un peu déprimant, et du coup c'est pas mal d'avoir un deuxième terrain qui montre qu'en fait le questionnement il est quand même valable, juste... Je me suis trompée de terrain. Après, la Croix-Rousse permettait de voir cette dimension plus longitudinale. La comparaison, c'est vraiment, vraiment utile. Ouais. Si on ne se met pas en tête de la faire terme à terme, j'étais partie là-dessus. Comparaison terme à terme, en fait, ça marche quand on compare des systèmes politiques. Mais en tout cas, là, sur ce type de terrain, surtout pas s'emprisonner dans une comparaison terme à terme.
Je sais pas si c'est une dernière question, mais sinon on va arrêter là. C'est l'heure. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci à vous.